France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'était en 1951 sur France 3 National, ancêtre de France Culture. Paul Claudel avait 82 ans et il lui fallait raconter son histoire, celle de sa pensée, celle de son cœur et celle de son œuvre. Son enfance, sa famille, un groupe farouche et hargneux, tout le monde se disputait, paraît-il. La religion, Camille, sa sœur, l'en avait séparé, provisoirement, comme l'on sait. L'enfance encore, son village natal lui faisait penser au décor des Hauts de Hurlevent. Voici le début des mémoires improvisées de Paul Claudel au micro de Jean Amrouche.
Le programme national vous prie d'écouter les mémoires improvisées de Paul Claudel, recueillies par Jean Amrouche.
Mesdames, messieurs, me voici bien intimidé, car si c'est un honneur insigne, ce n'est pas une petite épreuve que de se trouver face à face avec le plus grand poète vivant et l'un des plus grands de notre histoire. Durant plus de 25 ans, Paul Claudel, qui est ici, en face de moi, ne fut qu'un nom de trois syllabes et un personnage mythique, inaccessible, que l'imagination s'épuisait à poursuivre à travers le temps, les continents et les océans. Et tout à coup, il est là, et il faut lui poser des questions. Non pas mes questions, mais celles que chacun de vous aimerait lui poser. Et il faudra l'inciter, l'exciter, le provoquer, user avec lui de tout moyen propre à forcer ses souvenirs. Il faudra se montrer insinuant, subtil, parfois même brutal ou indiscret, pour le contraindre à répondre sur le champ, sans avoir presque pris le temps de réfléchir. Comme vous voyez, il s'agit d'un jeu, certes, d'un jeu passionnant et difficile, auquel nous voudrions vous associer. D'autant plus difficile que la règle en est simple. Rien ici n'est préparé ou à peine. Les joueurs ne sont pas de mèche, et Paul Claudel improvisera entièrement sa partie. Quant à moi, ce petit discours terminé, je pourrais certes me reporter à un canevas sommaire, mais je sais bien que nous ne le suivrons pas. Et maintenant, c'est vers vous, Paul Claudel, que je me tourne. Je vous remercie d'abord d'être ici et d'avoir consenti à supporter questions et commentaires plus ou moins intempestifs. Vous laissiez échapper cette plainte dans une des proses de Connaissance de l'Est, à l'occasion d'une brève escale en France. Amère entrevue, comme s'il était permis à quelqu'un d'étreindre son passé. Et dans une lettre à Jacques Madaul, écrite 35 années plus tard, vous savez que je ne relis jamais, sauf quand j'y suis absolument forcé par l'imprimeur. Eh bien, c'est précisément une épreuve de cet ordre que je voudrais vous imposer. Je voudrais vous aider, vous forcer même à nous raconter votre histoire, celle de votre pensée et celle de votre œuvre. Et puisqu'il faut bien commencer par le commencement, je voudrais d'abord vous demander de raconter votre enfance et votre adolescence.
Eh bien, mon enfance et mon adolescence portent comme un présage de la carrière que je devais avoir à poursuivre à la fois comme écrivain et comme homme d'État, si je peux dire. C'est-à-dire que je suis à la fois un voyageur et un enraciné. Un enraciné parce que la profonde influence qu'ont eu mes années d'enfance sur le reste de mon existence est un voyageur par la vocation errante que m'a imposé la carrière consulaire et diplomatique dans laquelle je suis entré. Je suis né dans un très vieux village de l'Île-de-France appartenant à cette région spéciale qu'on appelle le Tardenois et qui est à la fois distincte de cette grande plaine du Soissonnais qui s'étend vers le nord et du côté du sud et de l'ouest de ces vallées repliées qui se dirigent vers Paris, celle de la Marne et celle de l'Ourcq. Dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années, j'ai justement fait la peinture des quatre horizons qui se développent autour de mon lieu de naissance. Mais d'abord, il faut que je vous parle de ce village même, ce village de Villeneuve-sur-Fère, qui compte actuellement 300 fûts, bien qu'il fût auparavant plus important, et qui me rappelle beaucoup, d'après la description qu'en font les sœurs Brontë, ce village de Wuthering Heights, qui a abrité la naissance des trois illustres jeunes filles. C'est-à-dire, c'est un pays extrêmement austère, un pays où le vent est continuel et où la pluie est beaucoup plus fréquente, je crois, que dans toute région de France. Il n'y a rien de plus sévère, de plus amer, de plus religieux aussi, si je peux dire, dans le sens le plus sévère du mot, que ce village de Villeneuve-sur-Fère. Et quand à la Toussaint, on entend les cloches qui sonnent le glas, ce n'est pas précisément des idées de gaieté qu'elles vous font venir. D'autant plus que ma maison natale donnait directement sur le cimetière du village. Mon grand-oncle était curé de Villeneuve et la maison qu'il a bâtie lui-même, comme je vous le dis, donne sur le Gottsacre, comme on dit en anglais, l'hectare ou l'arpent de Dieu qui s'étend autour de l'église elle-même. Mon grand-père et mon grand-oncle étaient les descendants de petits cultivateurs de la région de Laon, ou plus exactement de Liesse. Et il y a une tradition dans la famille que c'est à la suite de la réception qu'ils firent d'un prêtre assermenté au moment des événements de 1793 que mon grand-oncle entra au petit séminaire de Liesse à la suite d'un vœu formé par la famille si ce réfugié parvenait à échapper à ses persécuteurs. Vous trouvez là une première trace du drame de l'otage. Plus tard, les vacances me ramenèrent chaque année dans ce village avec laquelle, pendant de longues années, j'ai gardé un contact continuel. Je me souviens surtout de mes entretiens, des conversations qu'avait avec nous notre vieille bonne Victoire Brunet, la fille d'un garde-chasse du duc de Cogny, à qui appartenait la Grande Forêt de la Tournelle voisine, qui appartient actuellement au Morun-et-Laton. Et des longues descriptions qu'elle nous faisait des traditions du pays, de la peinture qu'elle nous faisait des différents ménages et de leurs iniquités particulières, un contact aussi intime et aussi prolongé avec les gens du pays qu'on en trouve par exemple dans Saint-Simon. Rien ne m'a rappelé davantage les entretiens de Victoire Brunet que les commérages ou les confidences de Saint-Simon sur la cour de Versailles.
Mais ce personnage de Victoire Brunet dont vous parlez, est-ce qu'on le retrouve quelque part dans votre œuvre ?
Oui, on le retrouve un petit peu dans la mère de Toussaint Turlure.
Ah, bien.
La Suzanne, comme elle l'appelle, n'est-ce pas ?
Et la forêt dont vous parlez, c'est la fameuse forêt de Chevoche ?
Non, c'est une autre forêt. Dans mon livre « Contacts et circonstances », je parle des quatre horizons de Villeneuve, n'est-ce pas ? Il y a cet horizon de l'Est qui est le plus triste de tous, qui est un pays de culture qui n'a rien de riant, enfin où se trouvent beaucoup de plâtrières, un pays extrêmement dur et sévère. Du côté du Sud, alors, qui est la Tournelle, où il y a une fontaine au nom assez mystérieux qui s'appelle la fontaine de l'Asbille. Du moins, je trouvais ce nom-là assez mystérieux autrefois, quand Saint-Simon, justement, m'a appris que Sbille, dans le langage français, signifiait simplement vieille fille. On appelait une vieille fille une Sbille.
Alors, aucun rapport, par conséquent, entre aucun.
C'est
la
Sbille. La fontaine de l'Asbille, parce qu'on prononce la Sbille.
Oui.
La fontaine de l'Asbille, c'était simplement la fontaine de la vieille fille, n'est-ce pas ? Et alors, du côté de l'ouest, s'étend la vallée de l'Ourcq, alors pour moi, c'était le pays du rêve qui allait vers Paris, le soleil couchant, etc. Et enfin, au nord, c'était la plaine indéfinie, le Soissonnais, qui va presque sans aucun relief jusqu'à la mer.
De sorte que, dès votre enfance, vous étiez ainsi accoutumé à voir très loin.
Oui. Alors, là, c'est autre chose. Je vous parlais de mes souvenirs, justement, qui ont beaucoup influé sur mon œuvre dramatique, n'est-ce pas ? Et spécialement dans ce drame qu'on appelle L'Otage, que je suis en train de relire en ce moment-ci. Et je suis frappé d'y retrouver encore plus que des souvenirs précis, l'atmosphère qui a enveloppé mes idées d'enfance, n'est-ce pas ?
De sorte que le paysage de votre enfance a vraiment provoqué une imprégnation profonde.
Certainement, surtout sur la première partie de mon œuvre, n'est-ce pas ? Et alors, une autre influence, alors, c'est l'influence de l'horizon, que j'appellerai du Nord, avec ce vent terrible qui régnait continuellement, n'est-ce pas ? Alors, chaque fois que je faisais mes promenades habituelles, il y avait cette espèce de lutte dramatique contre ce vent terrible qui ne cessait de régner, si violent que le clocher de mon église même en a pris l'inclination. Il est comme un bateau qui prend large, le clocher est penché de côté comme le mât d'un navire.
Mais étant enfant déjà, vous étiez accoutumé à des promenades solitaires ?
Oh oui, alors beaucoup d'imagination, beaucoup de drames, de véritables chansons de gestes qui se passaient dans mon imagination, n'est-ce pas ? Des espèces de poèmes d'enfants.
Que vous avez écrit d'ailleurs très tôt.
Hein, je peux dire que je n'ai jamais cessé d'écrire ou de composer depuis ma plus vieille, depuis mon enfance.
Enfin, votre première.
Je me rappelle des espèces de poèmes que je devais écrire vers 5 ou 6 ans, n'est-ce pas, avant même de savoir lire. Hein.
Mais est-ce que vous les écriviez comme ça spontanément, ou bien est-ce que vous aviez conscience de composer déjà des poèmes ?
Dans la petite enfance, naturellement, je les écrivais naturellement, mais dès que j'ai eu 13 ou 14 ans, je me suis trouvé une vocation d'écrivain, n'est-ce pas, ou de poète. Je me rappelle des poèmes que j'écrivais à 14 ans et qui étaient déjà faits à peu près dans le rythme prosodique que j'ai adopté plus tard, qui m'est entièrement naturel.
Ouais. Je voudrais maintenant, si cela ne vous ennuie pas trop, vous demander d'évoquer quelques-uns des événements qui ont vraiment marqué votre mémoire.
Eh bien, les événements sont les événements de ma famille, qui était celle d'un fonctionnaire de l'enregistrement qui se déplaçait assez souvent. Mon père, quand il s'est marié, était receveur dans l'enregistrement à la Ferrand-Ardenois. C'est là qu'il a connu ma mère, fille d'un médecin, qui lui-même avait des propriétés terriennes et héritier de toute une famille dont on trouve des traces dans L'Otage, précisément. Famille à la fois très noble, puisque par la voie de bâtardise, nous descendons du duc d'Orléans, le fameux duc d'Orléans qui a été assassiné par Vence en peur, comme vous savez, et dont la famille est tombée ensuite dans la roture. Ce n'est pas simplement une légende, mais mon lointain parent, monsieur de Vertu, qui est actuellement fermier à Coincy, a une généalogie complète qui remonte de la manière la plus claire jusqu'à ce duc d'Orléans. La famille est tombée ensuite dans la roture et on trouve des deux vertus dans toutes les fermes des environs.
Ce Vertu est un nom qui nous est familier ?
Oh, je crois bien. Le sire de Vertu, c'était Galeas Visconti, qui était le père de la femme du duc d'Orléans, n'est-ce pas, et à qui Charles VI avait conféré ce titre.
Je ne pourrais malheureusement pas vous suivre dans la voie de cette érudition.
moi ça m'a amusé, puis j'avoue que je suis assez fier de cette naissance, parce que cette branche d'Orléans m'avait toujours été très sympathique.
Non,
pas
je pensais à ce...
Charles d'Orléans appartenait également à cette lignée, le poète Charles d'Orléans.
Je pensais simplement à ce Saint-Jean de Vertu dont il est question dans l'annonce faite à Marie.
C'est ça, oui, oui. Et alors, à cette branche très noble s'est adjointe une autre branche très roturière, du genre de Turlure, les Thierry, qui s'y sont alliés, n'est-ce pas, de sorte que les 200 se sont en somme livrés bataille dans mon ascendance. On trouve à la fois Turlure et on trouve les Coufontaines, n'est-ce pas ? Alors je porte cette double ascendance en moi.
Eh bien, si vous permettez, je crois que nous reverrons cela à propos de L'Otage, dont nous aurons à parler. Je voudrais vous demander dans quelle mesure vous croyez qu'il soit vraiment exact que vous ayez été si fortement, obsédé par non seulement l'idée mais la présence de la mort à la suite du décès, je crois, très douloureux de votre grand-père paternel en 81.
Ouais, c'est très exact. Mon grand-père qui était médecin, est mort d'un cancer à l'estomac. Ma mère était allée soigner ses derniers jours. Elle m'avait amené avec elle. Je ne sais pas si elle avait eu très raison, mais enfin, il y avait sans doute des circonstances personnelles qui l'y obligeaient. Et j'ai vu mon père, pour ainsi dire, heure à heure, mon grand-père, heure à heure, et jour à jour, mourir de cette maladie extrêmement cruelle, ce qui a eu une très forte influence sur moi, certainement.
Et est-ce
en même temps que la lecture d'un livre de Zola, que je trouve affreux, mais qui est peut-être un de ses meilleurs livres, qui s'appelle « La joie de vivre ».
La joie de vivre, oui, déjà oui. À cette époque-là.
Oui, oui.
Je voudrais vous demander maintenant, voilà. Est-ce que à cet âge-là, pendant que vous viviez à Villeneuve-sur-Fer en Tardenois, est-ce que vous étiez très pieux? Est-ce que la liturgie, l'encens, les cantiques...
C'est-à-dire, j'ai fait une bonne première communion, mais qui n'avait rien de spécialement religieux, n'est-ce pas? Ma famille était religieuse de tradition, mais de dévotion particulière, il n'y en avait pas dans la maison.
Mais, et en vous, est-ce que
je me rappelle simplement qu'au moment de ma première communion, le texte religieux qui avait fait le plus forte influence sur moi, c'était la prière à Jupiter du stoïcien Cléante, que j'avais trouvé dans l'histoire romaine de Duruy. Et ça m'avait beaucoup frappé, je trouvais ça très beau, et je trouvais ça plus religieux que les textes qu'on nous lisait aux paroissiens.
Tiens. Et quels étaient vos liens dans votre enfance avec votre sœur Camille?
Comment?
Quelles étaient vos relations avec votre sœur Camille?
C'est la seconde artiste de la famille. Ça, il faudrait vous dépeindre la famille Claudel, qui était une famille très particulière et très renfermée, vivant beaucoup sur elle-même, et d'une espèce d'orgueil farouche et hargneux, n'est-ce pas? Nous étions un petit clan qui nous trouvions immensément supérieurs à tout le reste. Et nous disputions énormément.
Et votre sœur Camille aussi participait?
Tout le monde se disputait dans la famille. Mon père et ma mère se disputaient, les enfants se disputaient avec leurs parents, et elles se disputaient beaucoup entre eux.
Oui.
Ma sœur Camille aussi. Enfin, c'était probablement le vent de Villeneuve que je vous ai décrit, n'est-ce pas, qui continuait ses ravages, mais enfin, nous disputions beaucoup.
Vous avez quitté Villeneuve en 1882 pour habiter Paris, et vous avez été...
C'est pas si rapide que ça. Après Villeneuve, je suis allé à Bar-le-Duc, où j'ai été longtemps au lycée. De Bar-le-Duc, mon père a été nommé conservateur des hypothèques à Nogent-sur-Seine, et c'est là où j'ai suivi l'enseignement d'un professeur excellent qui s'appelait Colin. C'était un journaliste et un professeur d'occasion, mais qui avait véritablement la vocation de l'enseignement. Et pendant 3 ans, il a jeté pour dire vrai, les vraies bases de mon éducation. Il m'a appris le latin, l'orthographe et le calcul, enfin tout ce que j'en sais, d'une manière absolument solide et fondamentale, qui ne m'a jamais quitté. Simplement parce qu'il avait de bonnes méthodes, qu'il s'occupait spécialement de nous et qu'il avait trouvé moyen de nous rendre l'étude intéressante. Ces 3 années m'ont laissé un excellent souvenir. Et puis alors, de temps en temps, il nous lisait des choses que je trouvais magnifiques, par exemple les extraits des morceaux choisis d'Aristophane, bien entendu, il ne lisait pas tout, de la chanson de Roland, le roman d'Urnard, enfin des textes qu'on ne lit pas d'habitude aux enfants et qui nous enthousiasmaient, ma sœur et moi.
De sorte que ceci ne vous préparait guère à supporter facilement le lycée Louis-le-Grand.
Alors ensuite, je suis allé dans un petit collège à Vassy, où nous étions 6 ou 7, dont j'ai gardé également un bon souvenir. Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste, ce qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas, ayant découvert de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues qui ont frappé M. Alfred Boucher, le statuaire. Alors, ma sœur, qui avait une volonté terrible, a réussi à entraîner toute la famille à Paris. Elle a voulant faire de la sculpture, moi, ce qui paraît, ayant une vocation d'écrivain, ma sœur, mon autre sœur de musicienne. Enfin, bref, Nous sommes, la famille s'est séparée en deux. Mon père est resté à Vassy et nous, nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés. Et alors, ça a été pour moi une catastrophe dans ma vie parce que toute ma vie a été déchirée en deux. Et je suis entré à Louis-le-Grand où je n'étais pas du tout préparé parce que j'avais toujours mené une vie très solitaire, indépendante, et il fallait maintenant m'arranger avec une classe de 40 ou 50 élèves de Louis-le-Grand, ce qui n'était pas commode. Mes parents étaient habitués à me voir toujours le premier dans une classe de 6, ce qui n'était pas énorme, et ils s'attendaient bonnement à ce que je sois également premier dans une classe de 50 ou de 60.
Oui, mais enfin, vous n'étiez pas ce qu'on appelle un cancre.
Hein?
Vous n'étiez pas ce qu'on appelle
un
cancre. Non,
au bout d'un certain temps, je suis arrivé en effet à être premier. Dans le reste du temps, il n'y a que deux choses, que deux sortes d'études dans lesquelles j'ai réussi. Et j'ai réussi non pas par goût personnel, parce que j'avais des professeurs extrêmement méchants et qui ne voulaient pas croire que je n'avais pas de disposition pour les sciences. Alors que j'ai des dispositions pour les sciences ou quoi, je n'en ai pas, mais ils ont réussi à me les fourrer dans la tête. Et ces branches-là, l'une est l'optique et l'autre est l'histoire naturelle. J'avais un professeur qui depuis a fait une grande carrière, qui est devenu un homme illustre, qui s'appelait Mangin. Et ce Mangin n'a tenu aucun compte de mes goûts particuliers et m'a absolument forcé, on peut dire, en me cognant la tête contre table, à m'intéresser à l'histoire naturelle. Ce que j'ai fait, dont j'ai gardé le goût.
Et je crois qu'il vous a rendu un très grand service.
Ben oui, ce qui prouve en particulier, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de ne pas écouter les enfants quand ils disent qu'ils n'ont pas de goût pour telle ou telle chose. Souvent, cette absence de goût déguise simplement la paresse.
Et vous pensez par conséquent que les méthodes autoritaires en matière d'éducation ont du bon?
Tout dépend des caractères, mais pour certains enfants qui ne sont pas plus bêtes que d'autres, je crois qu'il faut de l'autorité. Et en particulier pour les mathématiques, il n'y a pas de raison que les enfants n'aiment pas les mathématiques. Tout ça est une question d'éducation. Les mathématiques ne s'apprennent pas en public, je crois. Il faut un contact d'homme à homme entre le professeur et l'enfant, pas de mon opinion. Mais enfin, ça nous mènerait trop loin.
Est-ce que c'est cela qui vous a manqué à Louis-le-Grand, le contact d'homme à homme entre les professeurs et vous?
Bien, je dois dire que j'ai gardé de mes professeurs, de Louis-le-Grand, un très grand respect. L'éducation universitaire a une lacune énorme, c'est-à-dire qu'elle ne comporte que de l'instruction et ne fait aucune espèce d'attention à l'éducation, ce qui est tout de même le rôle principal. L'enfant n'est pas seulement un être à qui on a à fouer des notions de différentes choses, mais il a un caractère à former et il a un cœur. Et c'est ça dont l'éducation universitaire, de mon temps du moins, ne s'occupait absolument pas, n'est-ce pas?
Je crois que c'est bien difficile quand on a précisément des classes de 40 ou 50 ou 60 élèves.
Voilà. Alors, chez moi, également, dans ce caractère de paix armée qu'il y avait entre nous, chacun vivait dans son propre château, n'est-ce pas, avec le souci simplement de se défendre contre les autres, je ne trouvais pas non plus d'éducation, de sorte que j'ai dû me former moi-même, n'est-ce pas, au petit bonheur. Et ça, non sans beaucoup d'erreurs et sans beaucoup de souffrances.
Et parmi vos camarades du lycée, quels sont ceux dont vous avez gardé souvenir?
Eh bien, dans les premières classes, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il n'y a guère que quand je suis arrivé en philosophie, alors que j'ai trouvé des camarades comme Marcel Schwab au premier rang, comme Léon Daudet, comme Chavannes, le grand sinologue, comme Siffton, justement, dont vous avez
entendu parler. Le Siffton de l'affaire.
De l'affaire, oui. Et comme, mon Dieu, quelques autres encore.
Donc, ce n'est pas à cette époque-là que vous avez connu Philippe Berthelot.
Non.
C'est plus tard.
C'est beaucoup plus tard. Et c'est dans la classe de philosophie qui a une très grosse influence sur moi. J'avais un professeur vraiment remarquable qui s'appelait Burdeau, dont Barrès a fait une peinture, à mon avis, très, très, très injuste. Dans son livre de
Les Déracinés.
Dans son livre Les Déracinés, Burdeau donnait un peu physiquement l'impression de ces grands philosophes grecs ioniens, n'est-ce pas? Il était très pâle, une belle barbe noire, il avait une voix très impressionnante, et justement une partie de son cours était consacrée au grand philosophe primitif de l'histoire grecque. Et son cours a eu une très grosse influence sur moi, à ce point de vue-là.
Mais alors, c'est une légende qui veut que vous ayez eu tout de suite l'horreur de Burdeau, son enseignement.
Pour Burdeau, c'est absolument faux. Non seulement je n'ai pas eu d'horreur de Burdeau, mais j'avais une profonde admiration pour lui. La seule, ce qu'il y a de vrai, n'est-ce pas, c'est que les doctrines kantiennes de Burdeau, je n'ai jamais pu les avaler.
De sorte que c'était les doctrines.
C'était les doctrines, mais pas l'homme.
Et non pas l'homme.
Mais non pas l'homme. Ouais.
Eh bien, je suis très heureux que vous ayez cette occasion de le dire publiquement.
Et au contraire, je suis très heureux de rendre hommage à Burdeau pour qui, comme homme et comme éducateur, enfin comme professeur, pour qui j'ai une grande admiration, mais dont les théories me sont restées complètement imperméables, elles n'ont pas filtré.
Est-ce que vous pourriez évoquer maintenant la fameuse distribution des prix de 1883, où vous fûtes, paraît-il, couronné des mains d'Ernest Renan?
Eh bien, c'est parfaitement exact. Je crois que c'était à ma classe de seconde, préciser, il faudrait se reporter au texte, ça doit être 82 ou 83.
83.
C'est 83, bon. Ben oui, je devais être en classe de seconde. Et Renan a fait à ce moment-là un discours qui a d'ailleurs resté assez célèbre, dans lequel il disait, on avait fait son éloge, hein, naturellement le professeur qui faisait le discours d'usage avait fait l'éloge de ce grand homme, et Renan en répondant avait dit, oui jeunes gens, vous avez entendu l'éloge qu'on fait de moi, vous avez entendu parler de moi comme un grand homme qui a apporté beaucoup de vérité, beaucoup de lumière autour de lui. Et je ne me fais pas d'illusions, et qui sait si parmi vous, il n'y a pas l'un d'entre eux qui dira plus tard, Renan, cet empoisonneur, à tout ce qui s'ensuit.
Eh bien, il l'avait deviné, vous étiez là, et c'est précisément ce que vous avez dit.
Oui.
Est-ce que vous continuez à penser?
Est-ce que je continue à penser? Je dirais même de plus en plus.
Et de plus en plus. Est-ce que vous avez assisté à l'apothéose de Hugo? Est-ce que le souvenir des funérailles de Hugo a marqué votre adolescence?
J'étais déjà beaucoup plus âgé.
Et deux ans plus tard.
Il faudrait parler de mes rapports avec Hugo. Comme enfant, et dans mes premiers souvenirs, j'ai été frappé par les romans de Victor Hugo, qui paraissaient à ce moment-là en livraison et fort bien illustrés par cette race d'illustrateurs qui a maintenant disparu. Les Daniel Vierge, enfin, etc.
C'était dans la collection Hetzel.
Hetzel,
oui,
oui.
C'est cela, oui.
Et 93 en particulier m'avait beaucoup plu. De même, j'avais vu certains des dessins de Victor Hugo qui m'avaient également plu. Et je dois dire que, est-ce par une idiosyncrasie, enfin un tempérament particulier, mais jamais la poésie de Victor Hugo ne m'a plu. Je ne l'ai jamais avalé. L'Alexandrin était une coupe, un rythme qui était étranger à ma nature. Et puis alors, les petites anecdotes de Victor Hugo m'ont toujours semblé assez sottes. Par exemple, ces histoires de la légende des siècles où on voit un chevalier errant, pour sauver une touchante jeune fille, saisir le traître par les talons et lui cogner la tête contre les murs. Ben, même quand j'avais 13 ou 14 ans, cette histoire me semblait idiote.
Mais pardonnez-moi de vous couper dans ce que vous venez de dire. En fait, ma question avait un caractère assez bassement anecdotique.
Oui.
C'était surtout l'impression qu'aurait pu produire sur un garçon de votre âge cette espèce de déification, enfin d'apothéose Victor Hugo, l'enterrement, les funérailles nationales,
j'ai
etc.
vu ces funérailles hein, qui m'ont paru ressembler tout à fait à ce qu'on voit dans les romans du temps Louis-Philippe sur la descente de la Courtille. C'était quelque chose d'absolument arsouille, hein, si je peux dire répugnant, un défilé de Mardi Gras, tout à fait. Alors c'est l'impression que ça me donnait qui m'a produit une impression plutôt révoltante. Malgré tout, je considérais, et je considère encore Victor Hugo comme un grand poète, et cette espèce de descente de la Courtille qui a été ses funérailles, n'est-ce pas, m'ont énormément choqué.
Vous avez prononcé, que du temps que vous étiez ambassadeur à Bruxelles, un admirable discours en l'honneur de Victor Hugo. Il avait paru dans les Nouvelles littéraires.
Ah, vous l'avez, vous
rappelez. Oui, je m'en souviens très bien.
Ouais, ouais.
Et cet hommage m'avait été particulièrement sensible, non pas que j'eusse eu l'impression que vous vous étiez renié, mais déjà là, il semblait bien que votre admiration pour le prosateur, pour ses romans d'imagination et pour les travailleurs de la mer particulièrement, dont vous parliez dans ce discours.
Et surtout pour l'homme qui rit.
Et pour l'homme qui rit.
L'homme qui rit. J'ai une grande admiration pour l'homme qui rit. Je ne sais pas si je ne le considère pas comme le chef-d'œuvre de Victor Hugo, n'est-ce pas ?
Eh bien,
un roman presque inconnu, enfin qu'on ne lit pas.
Eh bien, c'est-à-dire qu'autrefois, on faisait lire aux enfants presque tous les romans de Victor Hugo.
Oui.
Maintenant, je ne sais pas si on continue encore de les faire lire.
Victor Hugo doit beaucoup aux illustrateurs. Il a trouvé toute une race d'illustrateurs, les Théophile Schuller, les Bida, les Billard, justement, les Daniel Vierge, et, qui étaient vraiment adaptés à l'œuvre de Victor Hugo et qui ont fait beaucoup pour son œuvre.
Et quelles étaient vos lectures du temps que vous étiez lycéen ?
Eh bien, là où mes lectures ont commencé, ça semble curieux, n'est-ce pas ? J'ai commencé par Goethe, par Faust. Ça m'avait beaucoup impressionné. Et puis très vite, je m'en suis lassé. Et alors pendant un certain temps, pendant plusieurs années, mon pain quotidien, ça a été Baudelaire, le Comte de Lille et Flaubert. Admiration que je suis loin d'avoir conservée maintenant, n'est-ce pas ?
Sinon pour Baudelaire.
Baudelaire s'est beaucoup diminué, mais enfin, j'ai conservé mon admiration pour Baudelaire, tandis que de celle pour le Comte de Lille ou Flaubert, il ne reste à peu près rien.
Pour Flaubert aussi ?
Oh oui.
Enfin.
Sauf pour la tentation de Saint-Antoine.
Sauf pour la tentation de Saint-Antoine. Et à quel moment, alors, se placent les lectures des classiques grecs et latins ?
Ah, nous arrivons dans une autre phase. Mais pour en finir avant ma période en pré-conversion, n'est-ce pas ? J'étais extrêmement malheureux au lycée, parce que cette absence d'éducation, cette absence d'un aliment dont je sentais le besoin, me faisait beaucoup souffrir. Puis alors, crainte de la mort, souvenir de la mort, sentiment d'abandon complet de cet enfant qui n'a aucun guide, qui ne sait de quel côté se tourner. Je peux dire que j'ai énormément souffert moralement pendant cette période-là. J'ai été extrêmement malheureux.
Mais
et de plus, cette vie de Paris qui ne me plaisait pas, cette absence de personne à qui je puisse me confier, à qui je puisse donner conseil, absolument rien, la solitude la plus absolue et la nécessité de compter uniquement sur moi.
Mais
rien, personne à qui demander conseil.
Mais pourtant, vous ne vous êtes jamais plaint de cette solitude. Vous avez dit, vous avez écrit que vous éprouviez profondément le sentiment que cette solitude vous était indispensable.
Oui, les deux choses vont ensemble, n'est-ce
oui.
pas ?
En somme, vous en souffriez ?
Oui, mais j'ai senti plus tard que cette souffrance était nécessaire. Mais je dois dire que cette souffrance était presque intolérable pendant plusieurs années. Après tout, j'étais un enfant comme les autres. J'avais besoin de me former une idée sur la vie, de me former une idée sur la destinée de l'homme. Enfin, ces questions-là se posent pour les enfants comme pour les hommes, et beaucoup avec un caractère d'urgence et de cruauté, je peux dire, encore plus fort que chez les adultes, n'est-ce pas, au moins pour moi.
Et vous n'aviez pas la tentation de rechercher à ce moment-là les secours de la religion ?
Non.
Rien.
Absolument pas.
En somme, vraiment, les pratiques religieuses de votre enfance ne vous avaient pas pénétré assez
non
profondément.
Non seulement ça, mais je peux dire que j'avais un véritable dégoût pour ces choses-là. C'était ma sœur, à dire vrai, ma sœur Camille, qui nous avait complètement séparés de la religion. La vie de Jésus lui était tombée sous la main. J'avais lu la vie de Jésus et je considérais la question comme absolument réglée.
La vie de Jésus de Renan.
Oui, la vie de Jésus, c'est elle qui est à la base de la cessation de mes idées religieuses, qui n'étaient pas très profondément enracinées, je dois dire.
Oui, mais à ce moment-là, étiez-vous simplement un croyant, ou bien étiez-vous, comment dirais-je, un incroyant militant ? Aviez-vous
plutôt
la haine des choses religieuses ?
Oui, plutôt, oui. J'avais, à ce moment-là, 14 ou 15 ans, vous savez comme sont les enfants, tout d'une pièce, j'étais plutôt nettement anti-religieux.
Et vos camarades autour
Sauf alors les camarades, la même chose. La religion n'existait pas dans la classe de Burdeau. C'était pas comme maintenant où il y a tout de même un sentiment religieux, mais dans la classe de Burdeau, quelqu'un qui serait donné comme catholique, toute la classe serait esclaffée. Et j'étais comme les autres à ce point de vue-là.
De sorte que non seulement la religion était haïe, mais encore, elle était tournée en dérision.
Enfin, faut pas dire ça. Enfin, avec un... Tout ça avec une certaine bonne humeur, tout de même.
Oui, bien sûr.
Pas de méchanceté. Mais enfin, c'était naïf. Et vous savez quel était l'esprit qui dominait dans la littérature, dans les journaux et partout à ce moment-là.
Oui, c'était l'atmosphère naturaliste que vous avez peinte en quelques traits.
L'atmosphère naturaliste et combiste, pas combiste, mais pré-combiste.
Non, scientiste.
Scientiste. Et, alors, c'est à ce moment-là alors que l'aurore, si je peux dire, de ma conversion apparut avec la découverte de Rimbaud. Je vois encore ce mois de mai 86 où j'ai ouvert la première livraison de la Vogue, où commençaient à apparaître les illuminations.
Alors, si vous voulez bien, nous aborderons ça au prochain entretien.
Bon.